J'ai abandonné le carton à Mona, qui s'en est saisie comme d'une carte au trésor.
Waouh ! Et ça fonctionne ?
J'ai vidé à mon tour mon verre de chardonnay et l'ai savouré au juste prix, 1 € le centilitre. C'est infaillible. Au pire, les femmes se sentent flattées. Au mieux, elles chavirent. Je joue sur la surprise, sur leur ego, sur le contraste entre l'indifférence parisienne générale et ma petite touche de romantisme qui tombe du ciel. Vous voyez, Mona, le compromis idéal entre la drague virtuelle sur les sites de rencontres et l'abordage lourdingue que subissent en permanence les filles dans la rue. Mona attrapa la bouteille et nous resservit. Elle siffla entre ses dents.
Une fille sur des milliers. Vous choisissez comment ?
C'est toute la question, Mona. Comment vous expliquer ? S'il y a bien un truc auquel je n'ai jamais rien compris, c'est le coup de foudre. Ce truc qui vous tomberait dessus dans la rue. La foule qui s'écarte au ralenti. Franchement, Mona, presque toutes les femmes ont du charme. Presque toutes possèdent un petit quelque chose qui permet de tomber amoureux d'elles, de les aimer toute une vie sans regret. Bon, admettons que pour un coup de foudre, ça ne suffise pas. Il reste que, je ne sais pas, au moins une femme sur trois est vraiment jolie, si elle veut plaire. Et si on cherche au-delà, au moins une femme sur 10, sur 20 peut-être, est parfaite. Chacune dans son genre, mais parfaite. Alors Mona, vous comprenez, le coup de foudre, sur un simple regard, ça me sidère. Des femmes capables de faire tomber un éclair sur moi, j'en croise une par voiture de métro, 10 à chaque terrasse d'une place parisienne sous le soleil, 100 sur une plage en été. Mona, entre deux moules grignotées de ses canines de chat, me dévisagea avec intérêt.
Pas facile de vous cerner, Jamal. Êtes-vous le pire des machos ou l'inventeur du post-romantisme ?
Elle s'arrêta pour réfléchir, comme pour chercher la faille dans ma méthode. Vous ne distribuez vraiment qu'une à trois cartes par jour ? J'ai mimé l'enfant penaud qui s'est fait démasquer. Vous rigolez ? Certains jours, j'ai été jusqu'à en refiler plusieurs centaines. Elle éclata de rire.
Filou ! Et la grande question maintenant, elle vous répond ?
Sérieusement ?
Oui.
J'ai un taux de réponse de près de 80%. Presque toutes passent à l'acte après 3 mails. J'ai couché avec les plus belles filles de la capitale, des canons que je cueille dans la rue, avec plus de facilité que si j'étais le patron de la plus grande agence de mannequins de Paris.
Vous me faites marcher ?
Peut-être. J'adore inventer des histoires. Mona leva son verre de chardonnay et trinqua avec moi.
Joli, Jamal. Match nul ?
Elle hésita, puis se lança.
Si vous m'aviez croisé dans la rue, vous m'auriez donné une carte ?
J'ai compris que je ne devais pas répondre trop vite. J'ai pris le temps de détailler chaque grain de sa peau, les reflets roux sur ses pommettes, les ombres de ses cils sur son adorable nez en trompette. Mona en rajouta, prit la pose, fixa la mer pour que j'admire son profil, s'étira, m'offrit sa gorge, sa nuque. Je répondis enfin en pesant chaque syllabe. Oui, et je n'en aurais distribué qu'une ce jour-là. Mona rougit. Pour la première fois, je la sentais gênée.
Menteur,
trouva-t-elle le moyen d'articuler. Elle chercha un moyen de détourner la conversation. Elle prit une longue respiration avant de poser sa question.
Et votre jambe, c'est un accident ?
Elle n'était pas si différente des autres, au fond. Elle n'avait pas résisté à la tentation. Ma réponse était toute prête, depuis des années.
Oui, porte-maillot. La plus belle des filles attendait de l'autre côté de la rame.
Impossible de la laisser partir sans lui donner de carte. J'ai sauté sur la voie, mais le métro est arrivé à ce moment-là. Elle rit.
Idiot ! Vous me direz un jour ?
Promis.
Vous êtes un drôle de type, Jamal. Amusant, mais menteur. D'ailleurs, je suis certaine que vous ne m'auriez pas donné votre carte. Je devine que vous aimez les femmes romantiques, les beautés fatales, les évanescentes. Pas les filles directes comme moi. À mon avis, c'est le problème de votre technique. Vous attirez des images. Vous les collectionnez comme des figures Panini. Vous n'attrapez pas celles qu'il vous faut.
Merci du conseil. Mona me dévorait des yeux.
Excusez-moi,
fit une voix dans notre dos. André était planté derrière nous avec deux bols d'île flottante au bout des bras. Il les posa en évitant de justesse le tsunami, puis se décida enfin à parler.
« Jamal, tout à l'heure, tu as parlé d'une suicidée. C'est récent ?»
Visiblement, André ignorait tout de l'accident de ce matin. étrange. J'ai expliqué brièvement les faits en omettant simplement de mentionner que j'avais trouvé l'écharpe Burberry accrochée à un barbelé sur la falaise et qu'elle s'était inexplicablement retrouvée autour du cou de Magali Véron. Plus je progressais dans mon récit, et plus André ouvrait des yeux ronds. Lorsque j'ai marqué une pause, le patron de la sirène, blanc comme ses nappes, bafouilla.
« Ton histoire me rappelle... »
Je l'ai devancé. « Le viol de Morgan Avril, il y a 10 ans. » André hocha lentement la tête en signe d'acquiescement.
« J'étais là, » continua-t-il, « aux premières loges. La fille Avril est morte sous ma fenêtre, pour ainsi dire. Le festival Riff on Cliff était une aubaine pour moi. J'avais écoulé des litres de moules, des tonnes de frites et de kebabs. Ma terrasse occupait toute la digue. Il faisait plutôt beau ce soir-là. Des jeunes venaient de partout. Et c'est la première et dernière fois qu'on a organisé un tel événement à Ipoh. »
Je comprends. Je ne trouvais rien de mieux à dire.
« Je ne vais pas me plaindre, » précisa André. « Après le meurtre, mon hôtel est resté plein pendant 6 mois. Journaliste, flic, expert, témoin, avocat. »«
Bonne nouvelle alors, » glissa Mona. « Avec cette morte, vous allez à nouveau afficher complet ?»
Je n'étais pas certain qu'André appréciait autant que moi l'humour de Mona. Il ne releva pas et se contenta de marquer un long silence.
« Et j'espère juste, » finit-il par ajouter, qu'il n'y en aura pas d'autres.
Pas d'autres quoi?
D'autres victimes?
Une tous les 10 ans, insista Mona. Cela laisse de la marge?
André lui jeta un regard étrange, vide, traversant Mona comme si la jeune femme n'existait pas pour aller se perdre beaucoup plus loin, quelque part entre mer et étoile. J'ai eu l'impression que plus qu'un mépris pour l'humour déplacé de Mona, il s'attendait à ce que l'on partage son inquiétude. Je me suis tourné vers lui. Pourquoi André? Pourquoi y aurait-il d'autres victimes?
Le patron avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une soirée. Il prit une chaise et s'assit à côté de nous. Il scruta longuement l'horizon noir, puis parla d'une voix basse. Tu ne connais pas toute l'histoire alors, Jamal? Tu as seulement appris pour Morgan Avril?
J'ai repensé aux dernières lignes des articles de presse lus avant le dîner. La théorie du capitaine Grima qui s'effondrait, l'affaire qui prenait une dimension nationale.
« 4 mois après le meurtre de Morgan Avril, » continua André, « il y a eu un second crime. Une fille d'Elbeuf, près de Rouen. Ça s'est passé en Basse-Normandie, au bord de la mer aussi, vers la fin des vacances. Elle encadrait un camp d'adolescents. Même violeur, même sperme, étranglé avec la même écharpe rouge Burberry. Ce fut la folie à l'époque en Normandie, la panique. On craignait que le tueur en série continue. Mais ça s'est arrêté là. 2 filles.
Il marqua une longue pause.
Jusqu'à ce matin.
J'ai tenté d'avancer une explication rationnelle. Cela veut dire que ce malade était en tôle depuis 10 ans, qu'il est sorti et qu'il recommence?
On ne l'a jamais coffré, fit André d'une voix monocorde.
Il resta pensif, perdu dans ses souvenirs. Les îles flottantes chimiques s'enfonçaient doucement dans leur mer de crème. Enfin, André s'éloigna pour débarrasser la table des Anglais qui avaient disparu avec leurs mômes en laissant derrière eux une marée de purée verte. Mona contempla son dessert comme une banquise victime du réchauffement climatique.
Sacrée histoire!
Je réfléchissais sans même lever les yeux vers elle. 2 meurtres. Un violeur en cavale depuis 10 ans qui visiblement était repassé à l'acte ce matin.
Sauf qu'il n'avait pas tué, cette fois-ci.
Magali s'était jetée elle-même du haut de la falaise, après s'être entortillée l'écharpe autour du cou. L'écharpe avec mes empreintes. Quelqu'un savait. Quelqu'un se jouait de moi et allait me donner les informations au compte-gouttes.
Pourquoi moi? Qu'est-ce que je venais faire dans toute cette histoire?
Les doigts de Mona jouaient avec ma carte.
« On y va ?» me fit-elle.
Je n'ai pas répondu. Elle semblait déçue par la tournure de la fin du repas, comme si la plongée dans le réel était trop brutale. Elle relut à voix haute quelques mots de ma carte.
« Merci pour cet instant magique. Je vais vous faire une confidence, Jamal. J'aurais adoré qu'un inconnu me glisse un tel mot dans la main sur le quai d'un train de banlieue. Je crois que je me serais laissé séduire, quel qu'il soit. »
Elle prit le temps d'observer par la baie vitrée, dans la lueur des réverbères, la danse des barques de pêcheurs amarrées, vides ou barrées par des fantômes.
Puis elle ajouta, « Mais à l'occasion d'un dîner avec vue panoramique sur la mer, ce n'est pas mal non plus. » Elle repoussa sa chaise et se leva.
J'ai frotté mes yeux, troublé par l'invraisemblable série d'événements qui s'étaient enchaînés depuis ce matin. Puis je lui ai lancé un sourire. Il faut croire qu'il fut au goût de Mona.
J'ai un principe, Jamal. Quand un garçon me plaît, je couche toujours le premier soir.